histoire.
Les grands portraits.
Franck Ferrand.
Louis XIV avait un frère, monsieur. On l'appelait monsieur, frère unique du roi. Et monsieur avait un fils, Philippe. Philippe d'Orléans, qui est à l'époque duc de Chartres. Nous en avons parlé puisqu'il est le futur régent de France. On en a parlé ici même avec Jean-Christian Petit-Fils. Eh bien, ce jeune duc de Chartres, il a reçu évidemment l'éducation la plus princière que vous puissiez imaginer. On lui a donné un excellent précepteur en la personne de Saint Laurent. Saint Laurent était un homme honnête, savant, remarquable, mais c'était aussi un monsieur qui commençait à fatiguer un peu, et on lui a donné un assistant, si vous voulez. On appelait ça un répétiteur, qui était là tout simplement pour aider le jeune prince à réciter ses leçons, à faire ses devoirs, comme nous dirions aujourd'hui. Et comme on disait déjà à l'époque du reste. Alors, on a consulté le vicaire de l'archevêque de Reims, qui a recommandé un jeune homme, fils d'apothicaire, même fils d'un apothicaire de Brive-la-Gaillarde. Le jeune homme en question est extrêmement brillant. C'était lui-même un savant. Il était évidemment de très simple extraction et il n'avait pas du tout d'argent. Il avait d'ailleurs suivi les cours du collège Saint-Michel grâce à une bourse qu'on lui avait donnée, bien entendu. Ce jeune homme s'appelle Guillaume Dubois. C'est notre personnage d'aujourd'hui. Alors, il porte tôt la calotte ecclésiastique, ce Guillaume, bien qu'il n'ait pas reçu les ordres. Il a pris ce qu'on appelle le petit collet parce que c'était un moyen, tout simplement, de s'avancer dans le monde, disons-le. Saint Laurent va donc l'attacher à la maison de Monsieur de Chartres. Certains diraient qu'il vient de faire entrer le loup dans la bergerie. Dubois est un homme extrêmement brillant. Il est insinuant, il sait flatter, il décoche les compliments comme personne. D'abord, c'est un excellent répétiteur, il est tout à fait très bon pédagogue avec le jeune prince. Bref, il se rend très vite indispensable. Et au moment où le vieux monsieur Saint-Laurent vient à mourir, le précepteur en titre, alors on se pose la question, qui va lui succéder, qui pourrait s'occuper du prince? Et finalement, eh bien, on décide que le répétiteur fera l'affaire. C'est monsieur lui-même, c'est le frère du roi qui prend cette décision. Et évidemment, on commence d'ores et déjà à se poser des questions, parce qu'il est encore une fois de très petite extraction, ce Guillaume Dubois, comme son nom l'indique. Il est Dubois dont on fait les grands personnages, si je puis dire. Mais bon, voilà, il fallait faire le jeu de mots, je l'ai fait maintenant. Personnalité bizarre, d'un côté très travailleur, très sérieux, très comme il faut, et puis d'un autre côté, opportuniste, et ça se lit sur son visage, ça se lit dans son regard, et il va très vite se faire des ennemis dans ce que la cour peut présenter de plus fermé au sein de l'aristocratie. Je pense évidemment au grand mémorialiste Saint-Simon, le duc de Saint-Simon, qui va tout simplement calomnier le jeune Dubois. Il prétend qu'il va pervertir son élève, qui, entre parenthèses, à 14-15 ans, est devenu un véritable prince charmant. Et lorsque Louis XIV décide de donner pour épouse à son neveu, de donner pour épouse au duc de Chartres, sa propre fille naturelle et néanmoins légitimée, mademoiselle de Blois, le précepteur, c'est assez extraordinaire, l'abbé Dubois, enfin il n'est pas encore abbé d'ailleurs dans ce qui nous concerne, Dubois va tout faire pour faciliter ce qui est regardé à la cour comme une alliance monstrueuse. Évidemment, Louis XIV se dit qu'il faut le récompenser, ce petit Dubois. Il a été formidable, il a convaincu son élève d'obéir aux ordres de son oncle. Alors il convoque Dubois, il faut imaginer ce que ça peut être que d'entrer dans le cabinet de Louis XIV. Vous imaginez ce roi qui, à l'époque, est au sommet de... Il est très impressionnant à voir, bien entendu. Et alors Dubois, qui est un petit personnage, lui, un petit peu freluquet, comme ça, s'avance, fait ses révérences, bien entendu, etc. Et le roi lui dit, alors, que voulez-vous pour que je vous récompense, que vos bons offices méritent une récompense? Et là, Dubois lui dit, tout simplement, j'aimerais la barrette, c'est-à-dire, j'aimerais devenir cardinal. Et l'on dit, alors... attention, il faut se méfier de certaines sources. Mais en tout cas, on dit que Louis XIV a été profondément heurté par cette demande incongrue, qu'il a froncé les sourcils et qu'on n'en a plus jamais parlé. Il faut vous dire qu'on est dans une période très intéressante, c'est toute la question de la crise de succession d'Espagne. C'est que le roi d'Espagne, Charles II, va mourir sans descendant et qui va lui succéder ? Dubois se dit que son élève pourrait être un excellent candidat. Il se rend en Angleterre et alors là, en Angleterre, il découvre un pays tout à fait selon ses goûts, selon ses idéaux. Il découvre un pays où l'on ne peut pas collecter l'impôt sans l'accord du Parlement, où les lettres de cachet n'existent pas, où à côté du droit divin existe ce que M. Locke appelle un droit naturel. Bref, l'Angleterre est le pays moderne. C'est un pays de liberté et ces libertés anglaises, non seulement Dubois est ébloui par ce qu'il voit, mais il va essayer de les inculquer, d'en montrer tous les mérites à son élève lorsqu'il est de retour. Vous imaginez, encore une fois, l'indignation dans une certaine partie de la cour et notamment chez le fameux Saint-Simon. Monsieur vient à mourir, on est en 1701, son fils devient désormais le duc d'Orléans, il doit se constituer une maison, il lui faut notamment un secrétaire de ses commandements, eh bien, il désigne Dubois et le roi révoque. C'est-à-dire que Louis XIV ne veut pas entendre parler de Dubois comme âme damnée de son neveu, d'une certaine manière. Finalement, il acceptera néanmoins, mais il va vraiment falloir lui forcer la main. Le prince, notre Philippe d'Orléans, va aller combattre bientôt en Espagne. C'est la fameuse guerre, la toute dernière guerre du règne de Louis XIV, la guerre de succession d'Espagne. Il va se couvrir de gloire en Italie, en Espagne, etc. Mais plus il gagne de bataille et plus il se montre bon général, plus il se fait d'ennemis à la cour. Il faut vous dire que sa fille aînée, Élisabeth Charlotte, a épousé à ce moment-là le troisième petit-fils de Louis XIV, le duc de Berry, et qu'il y a beaucoup d'ennemis à la cour pour essayer de dévaloriser le duc d'Orléans. On ne l'aime pas, quand je dis on, Madame de Maintenon, notamment l'épouse morganatique de Louis XIV, ne l'aime pas. Les cercles dévots autour d'elle ne l'aiment pas du tout non plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lorsque successivement vont mourir le dauphin dans un premier temps, puis le fils aîné du dauphin, le duc de Bourgogne, et son épouse, et leur propre fils aîné, bref, toute cette hécatombe dans la famille royale devient suspecte. Et qui en accuse-t-on ? Le duc d'Orléans. Ce qui veut dire que nous sommes en présence d'un personnage totalement ambivalent. D'un côté, il est très proche du trône, il est le deuxième dans l'ordre de succession s'il venait à mourir le tout petit enfant qui un jour va devenir Louis XV, et à côté de ça, il n'a plus la faveur royale, il soulève dans son sillage une véritable détestation, il est grand temps que autour du duc d'Orléans on fasse bloc, et il est grand temps surtout que Guillaume Dubois vole à son secours.
Franck Ferrand, les grands portraits, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Guillaume Dubois.
Il faut vous dire qu'au moment de la mort de tous ces princes de la famille royale, lorsque le duc d'Orléans a été particulièrement malmené, il y a eu des mots assez dur entre lui et Dubois. Dubois s'est même mis en retrait pendant un temps et puis le voilà qui de nouveau s'installe au palais royal chez Monseigneur, chez le duc d'Orléans, et il va essayer d'entamer en faveur de son maître toute une campagne à l'intérieur du royaume d'abord et puis bien sûr aussi à l'extérieur. Il faut vous dire qu'en Angleterre, le parti Whig, les libéraux si je puis dire, ont repris le pouvoir à l'avènement de Georges Ier de Hanovre, Georges Ier de Hanovre qui est un cousin germain de Philippe d'Orléans. Georges Ier a vraiment peur que Louis XIV n'arrive à installer sur le trône d'Angleterre le prétendant Jacques Stuart, vous savez. Et on va voir se nouer de premiers liens entre l'entourage de Georges Ier et cette espèce d'ambassadeur de l'ombre, si vous voulez, qu'est Guillaume Dubois. L'abbé Dubois travaille dans l'ombre, il essaie de rassurer les Anglais, il leur promet monts et merveilles pour le jour où le grand roi roi viendra à mourir. Et pendant ce temps-là, Louis XIV lui rédige son testament qui donne officiellement la régence à son neveu, mais qui surtout donne une grande place dans sa succession à l'un de ses enfants naturels, celui qui est le protégé de Madame de Maintenon, au duc du Maine. Vous connaissez la suite. Le 1er septembre 1715, Louis XIV vient à mourir. Le surlendemain, le Parlement de Paris casse le testament du roi. Philippe est le véritable maître du royaume. Et juste à côté de Philippe, évidemment, il y a Dubois. Alors, évidemment, il faut donner des gages au Parlement. Puisque les parlementaires ont aidé Philippe d'Orléans à prendre seul la régence du royaume, eh bien, en échange, ils demandent un certain nombre de faveurs. Et notamment, on va supprimer les postes de ministres et mettre à leur place des conseils. On va en parler tout à l'heure avec Jean-Christian Petit-Fils, c'est fondamental. Où il se trouve que dans un des conseils qu'on appelle le conseil de conscience, l'un des membres vient à mourir, il y a donc une place vacante. Cette place, pour des raisons protocolaires dans lesquelles je n'entrerai pas, personne n'en veut véritablement. Quand je dis personne, sauf l'abbé Dubois, qui lui, évidemment, du fait de ses origines et du fait de son incroyable ambition, n'est pas à cela près. Il se dit que ça pourrait lui faire une place intéressante. Il va donc entrer au conseil. C'est lui qui est nommé. Et c'est ainsi qu'à 60 ans maintenant, parce qu'il a, évidemment, il a vieilli, notre personnage, c'est ainsi qu'il va commencer sa véritable carrière politique. Le 5 juillet 1716, on le voit, alors c'est un personnage un peu malicieux, comme ça, faut vous imaginer le visage de Dubois, son regard, toujours un peu fuyant, en même temps extrêmement perçant. Il entre dans une auberge à La Haye, on est donc dans les Provinces-Unies, les Pays-Bas. Il a commandé une chambre tout à fait simple et il se fait passer pour un collectionneur de livres qui est là pour acheter des volumes rares et précieux. Il s'installe tranquillement. En vérité, l'abbé Dubois sait très bien que le roi d'Angleterre est de passage aux Provinces-Unies, qu'il va débarquer d'un moment à l'autre, qu'il est parti pour le Hanovre. Il faut pas oublier que c'est la dynastie de Hanovre maintenant qui règne sur l'Angleterre. Le Hanovre, ce sont les possessions continentales de la couronne. George vient défendre en quelque sorte ses terres contre des adversaires de plus en plus dangereux, et notamment contre la Russie. On est à l'époque où le tsar, Pierre le Grand, est en train d'étendre son hégémonie sur l'Europe du Nord. Bref, Dubois s'est installé, et lorsque la cour d'Angleterre, enfin l'entourage du roi débarque à La Haye, eh bien, il fait passer un petit message. Quand je dis un petit message, c'est une lettre tout à fait explicite, bien entendu, qu'il fait passer à l'un des conseillers les plus proches du roi, qui s'appelle Stanhope. Alors, il lui dit que le régent de France aurait des choses à dire à son maître et que lui-même serait prêt à discuter. Évidemment, Georges Ier, je vous l'ai dit, tremble de voir les Russes se développer, prendre notamment le contrôle du Hanovre, et il a une grande peur, c'est que le tsar Pierre ne s'allie à la France. S'il y a une alliance franco-russe, elle se fera, se dit-il, contre le Hanovre dans un premier temps, et d'une façon plus générale, contre l'Angleterre. Donc les Anglais ont intérêt à négocier. Le 21 juillet de cette année 1716, à 8h du matin, on voit donc Monsieur Dubois, l'abbé Dubois, entrer à la légation d'Angleterre. On peut pas dire que Stanhope le reçoive très, très aimablement, mais enfin, il est tellement insinuant, il sait tellement y faire, il possède également tant d'arguments qu'il va finir par convaincre peu à peu Stanhope, qui lui dit d'ailleurs à la fin de ce premier entretien, il lui dit « Je vous ferai demander à souper demain soir ». Ah, ça veut dire que, en quelque sorte, c'est gagné. Il se trouve aussi, et ça a joué incontestablement, qu'un courrier est arrivé pendant la nuit, porteur de la nouvelle que Pierre le Grand a envoyé un émissaire à Versailles. Donc, une alliance russo-française est de plus en plus probable. Voyez que Dubois est bien placé pour mener sa négociation. Je cite ici Philippe Erlanger qui nous parle de la grande réunion, celle du 22 septembre, qui a eu lieu dans une salle d'hôtellerie, dans une sorte d'auberge, il faut bien le dire. Il faut imaginer une sorte de taverne néerlandaise, vous savez, avec le très beau carrelage, avec les cuivres au mur. Enfin, on est dans cette Hollande éternelle, d'une certaine manière. Et il y a des pots de genièvre, des grandes cruches de vin, Et puis là, dans cette taverne, vous avez Stanhope pour l'Angleterre et Dubois pour la France qui vont en quelque sorte nous jouer une sorte de Yalta du XVIIIe siècle. Je cite Philippe Erlanger. « Les deux compères jouèrent carte sur table. Les plaisanteries de ce coquin d'abbé prêtaient parfois l'aspect d'une farce à ce drame auquel était lié le sort de plusieurs millions d'êtres. Il fallait garantir la paix, l'imposer aux deux tranches montagnes de Madrid et de Vienne. » Oui, parce que Philippe V à Madrid et Charles VI à Vienne, évidemment, eux sont pour une reprise des hostilités. Bien entendu, Jacques Stuart ne pesait pas une once dans cette nécessité, nous dit Erlanger. On signerait d'abord une alliance entre les trois puissances soucieuses d'éviter la guerre, France, Angleterre, Hollande. Bon gré mal gré, on y enrôlerait ensuite Charles VI, sa majesté sacrée, c'est-à-dire l'empereur d'Autriche, était besogneuse. La cession de la Sicile et un nombre suffisant de livres sterling le rendraient sans doute raisonnable. Au pis-aller, on lancerait le Turc dans ses jambes. Vous voyez comment on peut mener la diplomatie. La quadruplice scellée, nous dit-il, Philippe V serait fermement invité à y adhérer sous peine de l'avoir tourné contre lui. Ni les rotomontades du conseiller du roi d'Espagne, Alberoni, ni les autodafés ne susciteraient un miracle qui le ferait échapper au dilemme. Une sorte de mariage forcé unirait tout le monde et l'Europe serait sauvée. Alors évidemment, on sait que les finances françaises sont pas bonnes du tout. Bah, dit Dubois, vous ne connaissez pas la force d'un gouvernement qui fait banqueroute quand il veut. Il y a une sorte de mélange chez ce personnage de très grande intelligence, de sens suraigu des rapports de force et en même temps de légèreté, il faut bien le dire. Et la manière légère dont il traite les grandes affaires du monde n'est pas pour déplaire aux diplomates auxquels il s'adresse. Lui-même, le soir, va rédiger un rapport qui fera en tout 177 pages. Alors quand on voit l'écriture de Dubois, c'est une grande écriture néanmoins, mais 177 pages envoyées au régent. Vous voilà hors de page et moi hors de mes frayeurs que votre Altesse canonisera quand j'aurai l'honneur de lui rendre compte, dit-il. On peut dire que l'abbé Dubois vient de gagner et que pour au moins 30 ans maintenant, il vient d'assurer la paix de l'Europe.
Franck Ferrand, les grands portraits, 14h-15h sur Europe 1.
Et retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Guillaume Dubois.
Il y a donc, vous avez bien compris, deux grands personnages qui se livrent un véritable bras de fer dans cette Europe qui pour nous est celle de la Régence. Vous avez d'un côté le cardinal Dubois qui donc est le fils d'un apothicaire de Brive-la-Gaillarde et de l'autre, à côté du roi d'Espagne Philippe V, entre parenthèses, Philippe V est quand même le petit-fils de Louis XIV, donc c'est un peu une affaire de famille. À côté de Philippe V, Alberoni, qui lui est le fils d'un jardinier de plaisance. Donc, deux self-made men, si vous me passez l'expression, qui vont monter très haut, bien entendu. Et ces trois ans de disputes extraordinaires, puisqu'Alberoni a l'intention non seulement de donner à Philippe V la couronne de France, mais aussi d'établir les enfants de sa deuxième épouse, Élisabeth Farnèse, dans plusieurs principautés italiennes. Évidemment, en face, la France pèse de tout son poids. Dubois a été nommé ambassadeur à Londres. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il retrouve toutes ses relations à Londres, hein, tous ceux qu'il avait connus lors de son premier voyage. Et on peut dire que maintenant, il y a deux Europes, si vous voulez. Il y a deux camps, en tout cas, en Europe. D'un côté, la France, l'Angleterre, assez soudée, en tout cas. Les Pays-Bas, l'Autriche, la Russie de Pierre le Grand. Et puis de l'autre, eh bien l'Espagne, bien entendu, avec le pape. Et puis Charles XII de Suède, grand ennemi des Russes à l'époque. Et puis aussi, à l'intérieur des cours d'Angleterre et de France, ce qu'on appelait les vieux partis, c'est-à-dire tous ceux qui, nostalgiques du temps de Louis XIV d'un côté, du temps des Stuarts de l'autre, agissaient contre la politique de Dubois, de Georges, etc. D'ailleurs, en France, ça va avoir des conséquences terribles. Il y a toutes sortes de conspirations. La plus célèbre, c'est la conspiration de Celle-Lamarre, dans laquelle a trempé l'épouse du fils légitimé de Louis XIV, la duchesse du Maine, le duc du Maine aussi d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont l'abbé Dubois va s'en sortir. C'est d'ailleurs une conspiration qui est désarmée sans coup férir et sans que ne coule le sang, il faut le dire. C'est assez rare pour être souligné dans l'histoire. L'abbé Dubois est à la manœuvre sur tous les plans. Il travaille de 5h du matin à 8h du soir. Il est extrêmement précis dans tout son travail. On va venir à sa personnalité hein, dans un instant avec Jean-Christian Petitfils est assez extraordinaire. Et il dit un jour, parce que évidemment son modèle c'est Richelieu ou accessoirement ça pourrait être Mazarin, il dit un jour au régent « J'ai fait un rêve étrange, j'ai rêvé que vous me nommiez archevêque de Cambrai. » Alors Philippe éclate de rire, il dit « Enfin, toi archevêque, ça paraît impensable parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que notre abbé Dubois n'est pas un modèle de vertu, c'est même le moins qu'on puisse dire. On va venir là aussi dans un instant sur la vie qu'il menait, sur ses débauches bien connues, réelles ou supposées du reste, mais en tout cas sa réputation n'est pas du tout celle qui convient à un archevêque. Et vous pouvez faire confiance à Saint-Simon et à la vieille noblesse de l'ancienne cour pour accabler le vieux bonhomme. Oh, peu importe, je suis un vieux cheval de trompette, le bruit ne m'épouvante pas, disait-il. Il voulait être cardinal, premier ministre, peut-être régent. Il va réussir à réconcilier la France et l'Espagne. On est là après l'effroyable faillite du système financier de l'Écossais Law. Vous savez qu'on disait l'As à l'époque. Le duc d'Orléans en ce moment-là est complètement usé. Le roi est majeur. Et on va voir Philippe d'Orléans littéralement laisser les rênes du pouvoir en 1721. Et ces rênes, Dubois est là pour les recueillir d'une certaine manière. On est en pleine période de congrès pour la paix en Europe et tout le monde se dit que sans Dubois, cette paix ne se ferait pas. Voilà ce qu'écrit Philippe Erlanger. On vit alors cohabiter chez ce Janus, le grand politique sincèrement attaché à la reconstruction de l'Europe et le parvenu prêt aux pires manœuvres. L'empereur, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, bizarrement unis, demandèrent qu'il reçût le chapeau. Le chapeau dont on parle, c'est celui de cardinal. Le pape Clément XI mourut sans avoir cédé. Le conclave fut entièrement dominé par cette affaire qui concernait un mécréant, le cardinal Conti, ayant finalement accepté de passer sous les fourches caudines. Il fut élu sous le nom d'Innocent XIII et le drôle, comme on l'appelait, le fripon, le polygame de Dubois, fut revêtu de la pourpre cardinalis. Tel est le prestige de l'esprit qu'on l'appela aussitôt le cardinal, comme Richelieu et Mazarin, et Paris fredonna « Or, écoutez, petits et grands, un admirable événement, car l'autre jour, notre Saint-Père, après une courte prière, a par un miracle nouveau, fait un rouget d'un maquereau. » Bonjour Jean-Christian Petitfils, dans un instant avec vous, nous revenons sur ce personnage extraordinaire, bonjour, sur Dubois.
Anacréon, air vif, composé par Jean-Philippe Rameau sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Franck Ferrand.
Le cardinal Dubois est notre grand portrait d'aujourd'hui hein, et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-Christian Petitfils, historien, écrivain, auteur, entre autres, de Louis XV aux éditions Perrin.
Et oui, car ce petit abbé d'origine assez modeste est devenu cardinal et premier ministre et académicien. C'est une carrière extraordinaire. Au vrai, nous dit Philippe Erlanger, Dubois ne fut ni vénal, ni bigame, ni criminel, contrairement à ce qu'on a pu écrire. Grand diplomate, intelligence profonde et lucide, il manqua cruellement de sens moral. Mais qui, à son époque, le lui aurait reproché si l'obscure officine où il vit le jour avait été le noble château de quelque famille bien née? Peut-être que c'est là aussi l'origine de tous les ragots qui ont couru sur son compte, Jean-Christian Petitfils.
Absolument. Dubois a été la victime de la réaction aristocratique, de la haine de la haute aristocratie. Il faut voir que ce personnage qui part de rien, le fils d'un petit médecin apothicaire de Brive, fait une carrière fulgurante et arrive au sommet de l'État. Quand il entre au conseil du roi en tant que cardinal, il a la préséance sur les maréchaux de France, sur les ducs et pairs, et on voit ce petit personnage détesté, alors qu'on et naturellement cette noblesse méprisante ne considère pas du tout son intelligence. C'est un homme extrêmement intelligent, mais vous avez bien montré en fait, il y a un caractère ambivalent. Il est ambitieux, férocement ambitieux, nerveux, angoissé, colérique.
Ah mais à la fin, ça va devenir terrible.
À la fin, ça sera terrible.
C'est-à-dire qu'en fait, plus il voit, parce qu'il est très malade de la vessie, en fait, hein, et plus il voit ses forces l'abandonner, plus il se sent malade et plus il voit arriver la mort, au moment même où enfin il est devenu riche, puissant, enfin ce qu'il avait toujours rêvé d'être, ça le rend hystérique et du coup il devient méchant. On dit qu'il casse des bâtons bâton sur le dos des valets.
Grossier.
Voilà. Mais il faut voir aussi.
Il saute de siège en siège.
J'avais toujours ce caractère très angoissé. Ouais. On le voit au moment des négociations avec l'Angleterre. Les choses ont été beaucoup plus complexes. Vous l'avez raconté en quelques mots, bien entendu. Mais au début, ce n'était pas du tout gagné. Au début, l'Angleterre était extrêmement méfiante à l'égard de la France.
Elle avait de bonnes raisons.
Le gouvernement Whig ne voulait plus entendre parler de négociations avec les Français qui avaient soutenu le prétendant, le chevalier de Saint-Georges, c'est-à-dire Jacques III, fils de Jacques II, qui avait mené une expédition. On l'avait aidé clandestinement, mais c'était gros comme une maison, si je puis dire. On savait très bien que c'était la France qui l'aidait, et donc les Anglais voulaient rompre. Donc il a fallu toute l'habileté de Dubois et les exigences très profondes, le renvoi solennel du prétendant, l'expulsion
de Stuart, du prétendant, Jack Stuart,
voilà, la destruction des écluses de Mardyk, parce qu'on avait voulu reconstituer un port du fait qu'on avait abandonné et détruit le port de Dunkerque à la demande des Anglais au traité d'Utrecht. On a voulu reconstituer un port de guerre à Mardyk, avec des écluses et un port extrêmement important. Et là, il a fallu...
Pour préparer un débarquement en Angleterre.
Pour avoir une flotte de guerre dans le Pas-de-Calais. Et là, l'Angleterre a insisté. Ça a été... Bon. Dubois a été extrêmement habile à négocier avec Stanhope, qui était un vieil ami.
Je pense que Stanhope a compris que Dubois, foncièrement, était anglophile, qu'il aimait l'Angleterre et ses règles, et qu'il était donc, qu'on pouvait lui faire confiance.
Oui, mais il y avait aussi les intérêts communs, c'est-à-dire que Georges venait de s'installer sur le trône, était contesté par Georges Ier de Hanovre, était contesté par les Stuarts, dans la même position, en quelque sorte, que Philippe d'Orléans, régent, était contesté par Philippe V. Donc c'est cet accord, cette entente sur les intérêts qui va finalement conduire à l'attente. Et en effet, l'arrivée aussi de la menace russe, mais elle n'est venue qu'un peu plus tard sur le Hanovre. À ce moment-là, Georges Ier a dit « il faut céder ». Donc cette entente s'est faite. Alors, ce que vous montriez, c'est un personnage ambitieux, certainement colérique, mais aussi un homme d'État. Un grand homme d'État.
Alors, si vous voulez,
le plus grand homme d'État de la période.
On va venir à l'homme d'État, on va venir aux grandes décisions politiques qu'il a prises, intérieures, extérieures, etc. Ça va être toute la fin de cette émission et c'est important de pouvoir lui rendre hommage. Avant cela, peut-être la vulgate, si je puis dire, l'image. Quand on songe à l'abbé Dubois, devenu cardinal Dubois, on a toujours à l'esprit, bien entendu, le personnage de Jean Rochefort dans le film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence, c'est-à-dire une espèce de personnage sans aucune forme de morale, une espèce de noceur extrêmement cynique, drôle certes, mais dépourvu de toute conscience. Il faut relativiser un peu cette image.
Tout à fait. Alors, on l'a présenté comme, en effet, un personnage débauché. Je pense que c'est pas du tout cette image-là qu'il faut retenir. En effet, il a eu des aventures féminines, il a eu Madame de Tansin.
Il aimait bien les dames,
Madame
ça, c'est
de Tansin
sûr,
était sa maîtresse principale et il a eu quelques autres aventures, mais finalement beaucoup moins que le régent, le jeune.
Faut dire qu'il n'avait pas une vraie,
duc de Chartres.
Il n'avait pas une vraie vocation religieuse.
Non, aucune, mais ça, c'était un moyen de s'élever à cette époque-là. Et il a commencé alors qu'il était simplement tonsuré, il n'avait même pas le sous diaconat. Et au moment de son élévation à l'archevêché de Cambrai, il a fallu lui donner rapidement le sous diaconat, le diaconat, la prêtrise. Et il y en a un qui a ajouté, pourquoi pas le baptême aussi, tant qu'on y est. Et on voit le malheureux abbé Dubois, devenu vraiment prêtre, instruit par son neveu qui est un chanoine, « Mordiou, je n'arriverai jamais à apprendre ce bougre de verset là !» Parce qu'il apprenait sa messe en latin et il fallait qu'il la dise. Alors on a un personnage, bon c'est facile évidemment à caricaturer. Moi j'admire quand même beaucoup cet homme qui est très équilibré, contrairement à son alter ego Alberoni, qui lui aussi est un personnage très, très
oui,
excité.
Mais
il est dangereux, Alberoni. Alors que chez l'abbé Dubois, on a cette réflexion très profonde et mesurée en matière politique.
Alors, que lui devons-nous qu'est-ce que la France doit à l'abbé Dubois et puis avec lui, sans doute, au régent Philippe d'Orléans? Quelles sont les grandes décisions qui ont été prises à quoi son nom peut-il rester aujourd'hui attaché? C'est ce que nous allons voir avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, dans un instant.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Franck Ferrand.
Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du cardinal Dubois, avec l'historien écrivain Jean-Christian Petit-Fils. Et ce sujet fait réagir nos auditeurs.
Beaucoup, beaucoup d'auditeurs, ils sont visiblement ravis, nos auditeurs, qu'on parle de Dubois. Alors évidemment, la plupart des messages sont sur, se font l'écho de la légende, c'est certain. Monique de Saint-Laurent-Blangy est née à Cambrai, donc elle connaît bien Dubois. Et elle nous rappelle que c'est l'origine de la chanson « il court le furet ». Si vous remplacez furet par curé, vous faites vous-même l'anagramme et vous comprendrez ce que l'on dit en chantant cette chanson. Le curé Dubois, mesdames. N'est-ce pas? Par ailleurs, c'est Frédéric qui nous dit « Ah, les manigances de Dubois pour faire chasser le maréchal de Villeroy, vu par Saint-Simon, quel éclat de rire et sa manipulation du cardinal de Rohan pour siéger au conseil. » Mais ça, c'est Saint-Simon, justement. Hein, c'est donc la méchante langue.
C'est pas totalement faux.
Mais c'est pas totalement faux. D'ailleurs, on appelait Rohan le chausse-pied de Dubois parce que c'est ce qui lui avait permis d'entrer au conseil. Et puis, Patrick nous dit « Est-ce qu'il n'a pas manqué un Dubois à Louis XV ?» Je serais tenté de dire que Choiseul a joué un peu ce rôle-là vers la fin du règne.
De façon très, très différente. C'est quand même assez relatif.
Alors justement, venons-en à tout l'héritage politique de l'abbé Dubois, Jean-Christian Petit-Fils.
Alors, il y a un héritage intérieur et un héritage extérieur.
Voilà.
Politique
alors,
intérieure, c'est un homme qui a rétabli finalement la monarchie administrative, qu'on appelle monarchie absolue, c'est un grand, bien grand mot, mais enfin, qui a rétabli
très
les bases...
Très maltraité au début de la régence. Hein.
Très maltraité au début de la régence, parce qu'il fallait en effet donner des gages à l'aristocratie, à la noblesse de robe.
On appelle la réaction nobiliaire. Hein.
La réaction nobiliaire, qui va d'ailleurs se durer tout au long du
jusqu'à
18e siècle, jusqu'à la Révolution. Mais à ce moment-là, on cède. On va créer ce qu'on appelle la polysynodie, c'est-à-dire un gouvernement par des conseils. Tout ça, c'est l'inspiration de Fénelon, autrefois, avec un plan qui avait été fait, qui s'appelle les tables de Chaune, le duc de Beauvilliers, le duc de Bourgogne, donc l'héritier, qui avait concocté ce plan de réforme. Un plan absurde, parce qu'on supprime le mécanisme essentiel de la monarchie administrative, qui était les secrétaires d'État.
Donc les ministres, si l'on veut.
Donc
hein.
les ministres aussi, bien sûr. Et on instaure des conseils.
Mais ce qu'on appelait les secrétaires d'État sous l'Ancien Régime, c'est l'équivalent de nos grands ministres d'aujourd'hui.
Des grands ministères, voilà. Et donc, on va instaurer des conseils. On instaure 6 conseils. Le conseil de conscience, on en avait parlé. Le conseil des affaires étrangères. Le conseil de la guerre, des finances, de la marine et du dedans, c'est-à-dire des affaires intérieures.
Un grand bazar, si je puis dire.
Une grande pétaudière, comme on dira. On envisage même un 7e conseil, le commerce, et puis même un 8e pour la littérature et les arts, mais il ne verra jamais le jour. C'est présidé par des grands seigneurs, c'est le maréchal d'Uccelles, le maréchal de Villars, le duc d'Antin, le comte de Toulouse, fils naturel de Louis XIV, le maréchal de Villeroy. Tous ces personnages sont des grands seigneurs et des grands féodaux. Et ils vont obliger, en particulier, les maîtres des requêtes, qui sont les administrateurs, on dirait les énarques de l'époque, des gens extrêmement compétents, à rendre compte de leur dossier debout devant eux, puisqu'eux qui sont assis, on voit les préséances et le retour et l'aspect très rétrograde de ce système. Philippe d'Orléans, en fait, en a fait un théâtre d'ombre, parce que Philippe d'Orléans, finalement, c'est un homme aussi d'ordre, attaché à la monarchie absolue, de la même manière que l'abbé Dubois, qui va rentrer au Conseil des Affaires étrangères, s'opposer au cardinal d'Uccelles, parce qu'ils ont des points de vue très différents sur la politique étrangère.
Alors, comme je voudrais justement qu'on vienne à la politique étrangère, un mot seulement du système de l'eau, hein, de ce banquier écossais, on disait LAS autrefois, L-A-W, qui va conduire à la banqueroute. Un mot peut-être là-dessus.
Alors, c'est la première grande expérience de billets
financiers, on va dire,
ou des papiers monnaie. Donc on va, c'est un génie, Solos, mais un génie extrêmement dangereux qui a proposé ce plan de réforme, qui donc on va constituer une banque et cette banque d'État va recevoir en dépôt de l'or et émettre des billets en contrepartie. Bon, on va émettre naturellement davantage de billets que l'encaisseur. Et
oui.
Puis à côté de cette cette banque, on va adosser une compagnie qui va être d'abord la compagnie d'Occident, puis qui va devenir la compagnie des Indes, laquelle compagnie va exploiter les richesses du Mississippi. Alors c'est l'Eldorado, véritablement. On ne sait pas ce qu'il y a dans le Mississippi, mais tout le monde achète. Donc on va déposer son or à la banque, on reçoit des espèces, et avec les espèces, on achète des actions de la compagnie, lesquelles actions montent prodigieusement. Spéculation, vol, violence, crime, la régence est agitée par toute cette période, des fortunes se font, des laquais deviennent plus riches que des ducs, et des ducs finalement changent de position. Tout cela a été parfaitement raconté dans les romans, mais il y aura un aspect très très positif. Après donc une déconfiture totale, le prince de Conti arrivant avec dans son carrosse des brassées de billets et exigeant de toucher un remboursement en or, parce que se rendant compte que finalement il y avait un excès, il y avait une inflation, oui. Et que c'était très dangereux. Et à partir de là, tout le monde a exigé.
Tout le monde
donc émeute à la banque de la rue Vivienne, et le régent met fin à l'expérience, exil l'os. L'avantage quand même, c'est que ça a permis finalement de réduire l'endettement, puisque la France était très endettée à la mort de Louis XIV. Eh bien, cette euphorie, cette inflation a soutenu les affaires, et aujourd'hui, les historiens, et notamment les économistes, ont une vision beaucoup plus ouverte sur cette expérience qu'autrefois.
Il y a un lien entre cette expérience et le banquier Low et l'affaire du peuplement du Mississippi.
Il fallait donc peupler le Mississippi. On ramassait les archiducs, dans la ville de Paris les filles qui traînaient, les garçons qui traînaient, et on les envoyait au Mississippi. Il y avait des chaînes quasiment de galériens qui partaient pour le Mississippi. Ça, c'était un aspect assez atroce. Bah, c'est le fameux roman de Manon Lescaut.
Mais là où le génie
de l'abbé Prévost.
Là où, bien sûr, là où le génie de Dubois apparaît, c'est dès qu'il est question de diplomatie. C'est pour ça qu'on a eu tendance, de son vivant, à le comparer, d'ailleurs souvent pour le critiquer, à Richelieu, mais c'est plutôt à Mazarin qu'il ferait songer, ce nouveau cardinal.
Tout à fait, parce que c'est un homme de paix. C'est un homme de paix qui va construire la paix à partir de l'alliance avec l'Angleterre, dont on a parlé tout à l'heure, de cette triple alliance avec l'Angleterre, la France et les Pays-Bas, qui étaient un peu à la remorque à ce moment-là de l'Angleterre. Puis, cette zone de paix en Europe s'étend à l'empereur, après des hésitations d'ailleurs du régent, qui ne veut pas troubler le Philippe V, préférant une réconciliation avec Philippe V, mais il faut que Dubois insiste. On construit cette zone de paix et on va imposer à Philippe V et à Alberoni la paix, et il y aura une très brève guerre entre la France et l'Espagne, et cette zone s'étendra. Et le grand mérite de l'abbé Dubois, c'est d'avoir aussi construit un deuxième pilier. Il y a l'Angleterre, et l'Espagne, avec une réconciliation.
Alors ça, c'est
franco-espagnole,
ouais, c'est ça.
Les mariages.
Tout ça s'est fait dans un premier temps contre l'Espagne.
Exactement. Et retournement. Habileté, grâce au père d'Aubenton, qui était le confesseur de Philippe V et qui était en relation particulière avec l'abbé Dubois. C'est un homme de réseau, l'abbé Dubois. C'est un homme très habile, à Mazarin, vous avez raison. Et c'est comme cela que on promet la petite infante à Louis XV et que Mademoiselle de Montpensier doit épouser le prince des Asturies. Une Orléans qui va épouser un Bourbon alors qu'ils étaient en guerre et en lutte constante. Voilà le résultat de la politique tout à fait remarquable de l'abbé Dubois, qui est un très grand homme d'État.
Il n'a pas hésité. Alors c'est vrai qu'il n'était pas encore cardinal, il n'était pas encore le membre du Conseil, il n'était pas encore l'académicien de la fin de sa vie. Mais quand même, au début de la régence, il n'hésite pas à aller faire cette mission que j'ai racontée un peu plus en détail tout à l'heure, cette espèce de négociation dans une taverne avec Stanhope, sous un nom d'emprunt, sous un véritable déguisement d'ailleurs, il faut bien le dire.
Ils partaient sous le nom de l'abbé Saint-Alban et ils allaient aux Armes de Nassau, qui était une grande auberge à La Haye. Et là, arrivait la délégation anglaise et l'abbé Dubois. Et Dubois se faisant passer pour un collectionneur, un amateur de tableaux et de vieux livres, et rencontrant son ami.
C'est un moment où il tient un peu dans ses mains, on pourrait dire, le destin de l'Europe, quelque part. C'est bien des alliances se sont négociées pendant ces deux ou trois jours à La Haye.
c'est un grand renversement des alliances. Le premier renversement des alliances du XVIIIe siècle, il y en aura un second
oui, évidemment,
avec
56,
l'Autriche
oui.
beaucoup plus tard. Ce renversement d'alliance n'est pas sans poser de problème, bien entendu, comme tout renversement d'alliance. Il y a la vieille cour, animée par Villars, par le maréchal de Villars, par le maréchal d'Ussel. Eux sont attachés à l'Espagne et à Philippe V.
On adorerait savoir ce qui se serait passé si le cardinal Dubois avait vécu plus vieux. Bon, là, il se trouve qu'il meurt, tout le monde disparaît en même temps, si je puis dire. Hein. Le régent, l'abbé Dubois, tout ça fait place nette pour le tout début du règne de Louis XV. Il est mort dans des conditions très dures, dans des souffrances atroces.
Ah oui, hein, il avait un abcès à la vessie, il souffrait énormément, ça faisait déjà des mois que ça durait.
Il faisait comme si de rien n'était, il continuait à faire les fêtes, etc.
Les médecins, les chirurgiens Laperoni et Maréchal, qui étaient les anciens médecins de Louis XIV, insistaient pour une opération. Il hésitait. Là, il avait peur. Et il a accepté, finalement, poussé par Philippe d'Orléans, quand il était donc Premier ministre. C'était dans les derniers jours de sa vie. Et cette opération s'est mal placée. Il y a eu aussi un orage au moment de l'opération. Et le malheureux a vécu quelques heures couché sur des coussins, poussant des gémissements, souffrant atrocement.
On dit que le régent aurait dit « J'espère que ce temps-là va me débarrasser de mon drôle ».
Oui, mais alors là, il faut se méfier aussi des
on-dit.
Rapports. Oui, ouais. Des on-dit. Je pense que les rapports étaient assez ambigus. À un moment donné, Philippe a trouvé qu'en effet, son ancien précepteur en faisait trop et l'avait relégué un peu en second rôle.
Prenez un peu le premier rôle, évidemment.
Voilà.
Je rappelle, Jean-Christian Petit-Fils, on en parlerait longtemps de l'abbé Dubois, il y aurait tellement de petites anecdotes, mais bon, je renvoie nos auditeurs à vos ouvrages. Le Louis XV qui vient de paraître évidemment chez Perrin, et puis réédité dans la collection Plurielle, votre biographie du régent. Merci beaucoup.
Merci.
Et dans un instant, vous répondez Franck Ferrand à la question de Laure sur les origines du baiser.
Au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laure envoyée via la fanpage Facebook de l'émission. Elle vous demande de quand date la coutume du baiser pour montrer son affection dans le couple ou encore entre amis.
On parle bien là du baiser social, d'une certaine manière, pour montrer l'affection. Son origine est très difficile à repérer. Vous savez, les anthropologues pensent que tout simplement, autrefois, les hommes préhistoriques se reniflaient, que le baiser vient de là, de la nécessité de se sentir de très près, en quelque sorte, pour savoir à qui l'on a affaire. Peut-être. En tout cas, ce qui est certain et historiquement, c'est que la première trace littéraire de l'existence du baiser date d'environ 1500 avant notre ère, dans un texte qui remonte aux origines de la religion hindoue. Alors, on parle encore une fois du baiser social. On va trouver aussi plus tard dans le Kama Sutra des chapitres entiers sur toutes les façons d'embrasser, mais là, ça devient le baiser charnel. Même chose dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament, on trouve plus de 40 fois le mot baiser dans le sens social, mais dans le Cantique des Cantiques, vous avez le baiser charnel, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Enfin, vous connaissez cet extraordinaire texte du Cantique des Cantiques. Dans la Grèce antique, on trouve beaucoup de baisers dans tous les récits, notamment d'Homère. Ulysse est embrassé par ses esclaves. Le roi Priam embrasse, quant à lui, les mains d'Achille, etc. On va trouver la même chose dans l'Empire romain, même si peu à peu, le baiser, avec la dimension charnelle qu'il a souvent chez les Romains, va faire un peu peur aux chrétiens et on embrassera moins, paradoxalement. Je ne vous parle pas du baiser de Judas, évidemment, qui est le plus célèbre du Nouveau Testament. En tout cas, au Moyen-Âge, le baiser va déterminer en quelque sorte le rapport social. Par exemple, le sujet d'un roi embrasse sa bague et le bas de sa robe. Le vassal embrasse la main du seigneur. Les hommes scellent les accords en embrassant, enfin en baisant, les contrats qu'on leur fait signer. Vous voyez, il y a cette dimension. La bouche joue un rôle social, si je puis dire. À la Renaissance, le baiser religieux d'hommage et de fidélité va peu à peu disparaître, perdre cette signification sociale. Quant au French kiss, alors là on est dans le baiser charnel, ça c'est une autre histoire, beaucoup plus récente et qui fait référence simplement à la Première Guerre mondiale, mais je vous en parlerai une autre fois. Retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire et bien entendu, chère Anne-Sophie, dès samedi pour un nouveau grand portrait.
Eh oui, merci Franck Ferrand. À lundi donc sur Europe 1 dans quelques instants, juste après les infos. C'est Raphaël Antoven qui reçoit Étienne Klein pour parler d'Einstein et de la théorie de la relativité. Le tout dans Qui vive sur Europe 1. Vous